Bienvenue sur le podcast Conversation sur l'oreiller. Nous avons des échanges en direct à propos du plaisir, du sexe, des relations et du développement personnel. Je suis votre hôte, Mélanie. Bienvenue dans l'épisode numéro 26 des Conversations sur l'oreiller. Mon nom est Mélanie, je suis sexothérapeute et praticienne tantra. Aujourd'hui, je suis à nouveau avec Rachel, coach sportive, coach en nutrition et préparatrice mentale des sportifs. Nous continuons d'échanger avec vous sur l'impact sur nos vies du choix de nos partenaires. C'est la partie 2 et nous avons encore de merveilleuses choses à partager. Alors je vous laisse écouter ça. Nous sommes de retour avec Rachel pour la deuxième partie de l'épisode. Bonsoir Rachel.
Bonsoir Mélanie.
Tu m'as dit hors antenne que tu souhaitais revenir sur la définition du choix que tu as donné en première partie.
Alors, revenir, c'est un grand mot, mais en fait, c'est vrai que à la suite de cet épisode, j'ai eu un certain nombre de questions et des choses justement qui se sont clarifiées. Mm-hmm. Et je dirais que choisir son partenaire, c'est finalement déterminer la personne qui va nous accompagner vers nos objectifs de vie et qui, tout en nous faisant évoluer, mm-hmm. En fait, sa présence n'est jamais un obstacle à cette évolution. Et comme on parle de partenaire, il y a cette notion de réciprocité, ça veut dire que en fait, il en est de même pour cette personne vis-à-vis de nous.
Qu'on ne doit pas être un frein pour cette personne et cette personne ne doit pas être un frein pour nous. Est-ce que ça s'arrête là, selon toi, dans ta définition? Est-ce que... Parce qu'il y a... En fait, je trouve qu'il y a une nuance importante entre « tu ne dois pas être un frein pour moi » et « tu es un booster pour moi ».
Alors...
Tu vois?
C'est pour ça que j'ai parlé d'accompagner... Enfin, c'est vraiment un accompagnement. C'est dans le sens où la personne peut être là et ne rien faire, mais ne pas empêcher ton évolution. Elle peut aussi t'aider.
Ouais.
Mais à partir du moment où, quand tu es avec quelqu'un, si par exemple, dans ton évolution professionnelle, la personne devient un frein parce que, tu as une opportunité à l'étranger et que cette personne ne veut absolument pas revoir si il ou elle veut te suivre, et donc qui va, ça va poser la question de la pérennité de votre relation, ça peut être un obstacle. C'est pas nécessairement un obstacle, mais ça peut être un obstacle. Et l'idée, c'est que, parce qu'il y a combien de personnes aujourd'hui qui ont fait des choix professionnels, des choix de vie, en fonction de leur partenaire, et après, au final, quand la relation s'est terminée, on a des regrets, en fait.
Exactement. Ok, je vois. La question était... Enfin, ma question de... Il y a une différence, parce que selon moi, l'absence de quelque chose ne veut pas dire que son contraire est présent. En fait, pendant que tu répondais, je me disais... En fait, la réelle question, c'est... Est-ce que ça te suffit? En fait, quand ton partenaire ne te freine pas, et que c'est juste ça, en fait, il ne me freine pas, mais il ne me booste pas pour autant...
Si, moi,
est-ce que ça te suffit,
non,
tu vois?
Non, non. Il y a cette notion de tu ne dois pas me freiner,
ouais.
Mais justement, tu dois être quand même quelqu'un qui, au quotidien, c'est avec toi que je partage ma vie, en fait.
Exactement.
Donc, au quotidien, tu dois quand même être cette personne qui m'aide à évoluer. Alors, ça peut être sur plein de domaines. Je pense... Alors, ça me fait penser à l'une des choses que tu as mentionnées au dernier épisode. Quand tu parlais de ta relation actuelle.
Ouais.
Tu as dit que par rapport à tes précédentes relations, tu avais listé un certain nombre de problématiques mineures qui étaient beaucoup plus importantes que les problématiques que tu vas rencontrer aujourd'hui, mais qui vont être vraiment des problématiques qui vont te demander de travailler sur toi.
Oui.
Et qui vont te demander un temps. OK? Du coup, cette relation actuellement, c'est une relation qui t'oblige à plonger en toi et donc... d'une certaine façon, à te connaître un peu plus. Donc, c'est une relation qui te fait évoluer.
Oui, bien
sur
sûr.
Ce point-là.
Oui.
Donc, pour moi, en fait, il y a vraiment plusieurs notions dans la notion d'évolution. C'est pas nécessairement...
Carriériste, quoi.
Carriériste. Ouais, ça peut être vraiment humainement. Et je pense que c'est l'une des principales...
Ouais, exact.
C'est celle que je recherche.
En fait, dans la partie 1, j'ai même exprimé le fait qu'aujourd'hui, je sais que je pourrais très bien être avec quelqu'un qui n'a pas autant d'ambition professionnelle que moi. Parce qu'en fait, je sais que la personne peut m'apporter... autre chose, en fait, peut être vraiment un booster, pour le coup, sur autre chose.
Voilà.
Et aujourd'hui, j'ai confiance en le fait que, à moi seule, j'ai suffisamment d'énergie à m'apporter pour continuer sur ma voie professionnelle.
Ouais.
Et je n'ai pas besoin d'énergie extérieure pour m'alimenter, tu vois. Parce que ça aussi, je pense que c'est important de savoir
ce dont tu as besoin.
Oui.
En fait, je sais que, par exemple, je sais que mon rapport à mon corps n'est pas optimal. Mm-hmm, mm-hmm. Et je sais que, du coup, j'ai besoin que cette personne oui. m'aide oui. à mieux me voir. J'ai besoin de me voir à travers les yeux de cette personne, même, pour récolter un peu plus d'amour propre, en fait.
Okay.
Ça, je sais que c'est quelque chose que j'ai traversé. J'ai pu être dans une relation où le regard de la personne m'a vraiment appris à...
T'accepter ?
Même pas m'accepter, mais à me voir autrement.
Ok.
D'ailleurs, j'ai un autre exemple très précis, parce que je dis ça et j'ai un autre exemple qui me vient en tête. Avant, je vivais très mal mon rapport à mes règles.
Ok.
Donc, mon cycle menstruel, etc. Et c'est un de mes partenaires, donc un homme.
Ok.
Puisque, bon, je sais que les auditeurs maintenant savent que je ne suis pas hétérosexuelle. Mais c'est un homme qui m'a fait changer mon rapport à okay. mon cycle menstruel. Ouais, c'était vraiment un de mes partenaires qui m'a vraiment fait prendre conscience que je ne prenais pas du tout soin de moi pendant cette période de mes règles, que c'était justement une période que je devais accueillir un peu comme « Oh, ben mon corps m'invite à me reposer maintenant. » Et c'est vraiment un homme qui m'a appris okay. ça, qui m'a dit « Écoute, moi je sais que j'aimerais bien avoir quelque chose de naturel qui m'invite tous les mois à me dire okay, en fait prends cette ouais et j'étais là mais what genre j'avais vraiment pas
faire des conférences
j'avais vu ça comme ça tu vois donc au final et c'est pas quelque chose dont j'avais conscience que j'avais besoin donc oui. c'est quelque chose oui. qui m'a apporté sans que je me dise oui tu vois donc oui je pense que parfois ton ou ta partenaire t'apporte bien plus de choses qu'un boost professionnel, quoi.
Ouais. Et alors, j'ai une autre question toujours par rapport à ces trois points que t'as mentionnés. Sans nous dévoiler quoi que ce soit comme détail, mais est-ce que ce sont trois points qui, pour toi, ne s'étaient jamais présentés avant? Ou est-ce que c'est trois points qui s'étaient présentés mais qui n'ont pas été problématiques ou que t'as volontairement, consciemment ou pas d'ailleurs, ignorer. Je te pose la question parce que moi, j'ai mon expérience, je veux déjà avoir la tienne, ton avis.
Alors, il y en a un qui ne s'était jamais présenté avant.
Ok.
Ça, c'est sûr. L'un des points, c'est le point racial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la première fois de toute ma vie, j'entre dans une relation avec une personne blanche. Et du coup, j'avais jamais été confrontée à avoir une personne qui n'a pas du tout de culture noire, en fait, tu vois. Ouais. Et ça, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et les deux autres points sont des... Alors, intéressant.
Ouais. Ouais.
Le deuxième point, c'est le point financier.
Ok.
Et en fait, pour la première fois de ma vie, je suis dans une relation avec quelqu'un qui gagne plus que moi.
Ok.
Mais vraiment beaucoup plus que moi.
Ok.
Alors qu'avant, soit je gagnais plus que mes partenaires.
Où vous étiez.
Ou soit on était vraiment très égal, tu vois.
D'accord.
Et troisièmement, c'est le point de la culture. J'avais déjà été avec des personnes qui n'avaient pas la même culture que moi. Mais ça restait quand même des personnes de couleur. Du coup, c'était plus facile, plus confortable. Mm. Je vais pas dire plus facile, mais c'était plus confortable. On se ressemble, en fait, mine de rien.
Mais
un noir latino.
Ça reste un noir.
Ça reste un noir.
Ok.
Tu vois, même si tu parles espagnol, même si même si on vit pas dans le même pays, etc. Mais on a quand même des choses qui...
Il y a des choses en commun.
Oui, tu vois. Mais là, il y a vraiment rien.
Ok.
Mais rien.
Ok.
Ni la langue, ni la culture, ni... Voilà. Et c'est très inconfortable, mais du coup, c'est extrêmement enrichissant.
Mais...
Pour quelqu'un qui aime voyager, en fait, c'est comme si là... c'est comme si là, tu voyages dans ta relation. Mais tout du coup, t'es pas là pour les vacances, tu vois. Tu vois. Donc, Donc, ouais, ces trois points-là sont énormes. Énormes. Bah, parce que... Déjà, l'argent, c'est tabou pour les gens. Parce que je sais que pour toi, c'est pas le cas. Pour moi, c'est pas le cas. Mais en général, l'argent, c'est tabou. Quant à l'ethnie, mais laisse tomber.
Oui, on l'a vu récemment avec des petites stories.
Il n'y a que la culture où c'est okay, tu vois. C'est inconfortable, voilà.
Ok. Mais dans le précédent épisode, on en a parlé justement de l'inconfort et justement du fait de, d'évoluer dans l'inconfort et de progresser dans l'inconfort. Et en fait, je t'ai posé cette question-là, mais parce que moi, c'est différent. Alors, moi, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais pour le coup, je sais que il y a certaines problématiques que je rencontre aujourd'hui dans la relation dans laquelle je suis qui m'obligent aujourd'hui à vraiment aller chercher en moi. En fait, c'est des problématiques qui s'étaient déjà présentées.
Ah !
Et la question, du coup, c'est me demander pourquoi, en fait, aujourd'hui, ça a cette résonance-là chez moi. Qu'est-ce que ça va toucher ? Et du coup, j'ai deux choix. C'est ou, justement, j'ignore, comme j'ai
comme
fait
jusqu'à... Comme tu as toujours fait.
Comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Ou, en fait, ben, je vais vraiment chercher au fond de moi, voir réellement ce que ça a touché. Et du coup... tout le travail que j'ai à faire pour pouvoir passer outre. Et donc, a priori, j'ai décidé d'aller chercher au fond.
Ouais.
Mais du coup, ouais, je voulais avoir ton avis par rapport à ça, parce que je pense que il y a des choses qu'on traîne. On répète, en fait, des schémas. Ça aussi, on l'avait
abordé en partie 1, ouais.
On répète des schémas et il y a un moment où bah, tu te rends compte que si tu continues à faire comme tu as fait, tu n'auras pas des résultats différents.
Alors, moi, je sais que les schémas... d'ailleurs, j'en ai parlé justement en partie 1 que j'ai répété trop de fois avant de passer à autre chose. C'était le schéma de la violence.
Oui.
Mais il y a d'autres schémas comme par exemple... En fait, je vais dire le schéma de la distance. Parce que pendant très longtemps, j'attirais que des personnes qui vivaient loin de moi.
OK.
Donc, en fait, j'étais... obligée d'être dans des relations longue distance. Et c'est quelque chose que je vivais très mal parce que... Enfin, j'avais du mal à accepter que quelqu'un peut être présent sans être présent physiquement. Voilà. Et à la seconde où j'ai accepté, en fait, que la présence a plusieurs formes, eh bien, la distance n'était plus... en fait, c'était plus un fardeau.
Ouais, je vois bien ce que tu veux dire.
Donc, en fait, je pense que c'est important de mentionner ça parce qu'il y a pas mal de personnes qui se disent bah, « Une fois que tu as compris une leçon, la vie ne te met plus ça devant tes yeux. » Mais en fait, c'est pas parce que j'ai compris cette leçon-là que j'ai arrêté de rencontrer des personnes qui vivaient loin. Tu vois ? C'était vraiment bah, « En fait, non, maintenant, je continue de rencontrer des personnes qui vivent loin ou quoi que ce soit. Mais c'est juste qu'en fait, le schéma longue distance n'est plus un problème.
Okay. »
Et c'est pour ça que j'en ai parlé d'ailleurs... sur le podcast dans un épisode j'oublie quel numéro mais il y a un podcast relation longue distance voilà du coup oui il y a eu la violence où en fait je creusais pas là-dedans donc je répétais il y a eu la distance j'ai fini par creuser j'ai compris et aujourd'hui c'est quelque chose que je vis très bien et il y a eu le style d'attachement pendant très longtemps j'attirais beaucoup de personnes avec un style d'attachement évitant.
Okay.
Donc, c'était « Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, okay. je te... Okay. » Tu vois
okay.
Quand, voilà, en fait, « Je t'aime, je suis là pour toi, je vais te soutenir. Mais si tu me le rends en retour, et t'as, oh, genre, oh, il faut que je prenne un petit peu de distance, tu vois. » Mais c'était pas violent.
Non, mais je comprends.
C'était pas violent, tu vois.
Le hochement de tête, c'est pas pour...
Elle se sent piquée. Donc oui, pendant très longtemps, j'avais ce type de personne. J'attirais ce type de personne. Okay. Et par contre, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait exactement. Mais je sais qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout ce type de personne que j'attire. Et c'est vraiment l'inverse. Les personnes qui, ok, en fait, oh, yes, let's nurture. Tu vois, c'est vraiment, allons se nourrir de, ok, en fait, t'es présent, ok, je suis présente. Okay. Voilà, tu vois. Donc ouais, ça a été on va dire les trois schémas auxquels j'ai dû faire face qui m'ont permis du coup, comme j'ai dit dans la partie 1, de peaufiner mes choix et de vraiment mieux choisir les personnes avec qui je souhaite évoluer, comme tu dis.
Exactement. Très bien.
Exact. Tu es piquée.
Alors en fait, là je suis en train de le dire. Ok. Non, mais... Alors, toi, t'as parlé de tes schémas. Je sais que pendant très longtemps, en fait, j'ai attiré un type de personne qui... En fait, je jouais inconsciemment le rôle de maman.
Oh là là. Oh oui. Okay? Oui, oui.
C'est-à-dire que c'est... C'était pas forcément formulé, hein, tu vois, mais, et même d'ailleurs sans que ça ne m'était pas forcément demandé, mais c'est le rôle en fait que je jouais. On a dit que justement il y a des points sur lesquels on doit travailler et qui nous amènent à justement aller chercher au fond de nous. Donc je sais pourquoi aujourd'hui j'avais peut-être attiré ce genre de personne, moi, parce que on parle souvent en fait de dans une relation des ruptures, de ce que l'autre a fait, mais il y a aussi sa responsabilité en fait, parce que qu'importe ce qui t'arrive, que tu sois, ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais qu'importe le rôle que tu tiens dans une histoire, même si tu es victime. Dans certains cas, dans la plupart, hein, je mets en contexte, nuance, attention, nuance. On ne parle pas de viol, on ne parle pas des cas de violence, mais on a très souvent une part de responsabilité dans ce qui nous arrive.
Ouais.
Et le confort veut que, bah, en fait, tu te poses en tant que victime parce que bah, c'est un rôle de
très passivité. Confortable.
C'est confortable, ça t'évite de te remettre en question, ça t'évite de... poser justement ta responsabilité dans ce qui s'est passé en fait. Et je sais aujourd'hui que il y a un certain nombre de choses qui m'est arrivé dans les histoires que j'ai pu rencontrer où clairement j'avais ma responsabilité dans la façon dont les choses se sont passées. Voilà. Et c'est clairement par rapport aux postures que j'ai adoptées au départ. C'est-à-dire que
non mais il y aurait tellement de choses à dire sur ça parce que je pense que là, je vais parler vraiment de manière culturelle. Je pense qu'il y a énormément de femmes antillaises qui vivent la position de mère dans leur relation, comme tu as pu toi-même le vivre. Et en fait, très souvent, parce que en séance, j'ai énormément de clientes qui sont des mamans, clairement, et qui s'en plaignent, tu vois, genre, oui, je suis là, enfin, limite, je suis la petite maman de mon gars et tout. Et en fait, il y a aussi ce même profil commun à toutes ces femmes qui vivent cette expérience de petite contrôle fric, en fait. Tu vois ? Non, mais c'est ça. En fait, j'ai du mal, mais pour X ou Y raison, en fait, parce qu'on a ce truc de culture de la femme potomitan, ou parce que, en fait, il m'est arrivé quelque chose... une agression ou quoi que ce soit, et depuis j'ai développé cette forme de personnalité où il faut que je contrôle me sentir protégée de ou quoi que ce soit. Ou en fait ça peut venir de tellement de raisons particulières.
Ça peut être le schéma familial dans lequel on a évolué, ça peut être...
Mais il y a ce profil de control freak, tu vois, commun. Et en fait, il y a cette plainte de « Oh mais j'en ai marre d'être la maman », mais en même temps, il y a ce refus de se regarder dans le miroir de... Mais en fait, peut-être que même lui, il veut pas que tu aies ce rôle,
C'est pour ça que je te dis qu'il y a des postures que j'ai adoptées, où je sais que, pour le coup... Alors, je vais quand même nuancer, parce qu'il y a eu des introspections, il y en a eu plein, et j'ai, comme tu dis, j'ai eu cette posture où, effectivement, ça me rassurait de tout contrôler. Mais je me suis rendu compte aussi que quand je ne contrôlais pas... Je poursuis. Et c'est là où, en fait, tu vois comment tu choisis ton partenaire. Ouais. C'est-à-dire que si c'est pas quelque chose que tu as envie de faire, mais que la personne avec qui tu es, finalement, te laisse la place de le faire, et en fait, on a besoin, même sans faire la demande, moi, j'ai plus ma place là, en fait.
Alors, j'ai une question pour toi.
Ok.
Parce que tu sais comment je vais me foutre la merde. Mais du coup, parce que là, tu parles de... T'as aussi vu que quand tu faisais pas, c'était la merde au final. Donc, en fait, il fallait que tu contrôles, il fallait que tu aies ce rôle de mère pour que les choses se passent bien. Une fois que tu as peaufiné comment tu choisissais tes partenaires et que aujourd'hui tu as attiré quelqu'un dont tu n'as plus à être la mère, est-ce que c'est confortable de ne plus l'être ?
Non.
Voilà, mais, voilà. Mais, et tu vois.
Mais c'est pour ça que je te parlais de. On a toujours. C'est toujours le mot qui revient, c'est le mot confort. Mm-hmm. Et c'est pour ça que je te dis qu'on évolue dans l'inconfort. Mm-hmm. Quand j'étais confortable dans le rôle que j'avais, finalement, c'était automatisé. C'est-à-dire mm-hmm. que c'est comme ça que je fonctionnais sans me remettre en question. Bah, en fait, j'étais comme ça et il n'y avait pas de positif en soi. Quand on regarde la situation dans le global, c'était pas forcément positif, mais ça fonctionnait comme ça.
Bien sûr. Du coup, d'une certaine manière, ça montre bien à quel point le choix que tu fais de ton partenaire va déterminer ton quotidien. Mm-hmm. En fait, je choisis quelqu'un qui, par exemple, qui a été tout le temps assisté, mm-hmm. ou quelqu'un qui, bah, par exemple, on parlait de comment son ou sa partenaire peut être un moteur. Mm-hmm. En fait, ah, bah, j'ai besoin que tu me boostes, j'ai mm-hmm. besoin parce que je perds facilement de la motivation sur X, mm-hmm. Y, Z. Donc, admettons, j'ai construit ma personne en étant facilement démotivée et en ayant, par exemple, des frères, des sœurs ou des parents, okay. ou ouais. des amis ou quoi que ce soit, mm-hmm. qui me motivaient, en fait. J'ai jamais été dans un environnement où je devais trouver la motivation de moi-même.
Okay.
Tu vois, admettons. Admettons, je choisis quelqu'un qui a vécu dans ce type d'environnement-là. Je sais qu'en tant que son ou sa partenaire, eh bien, je serai son moteur, en fait.
Okay.
Tu vois ? Et ça, je pense que si on doit vraiment... enfin, quand j'exprime ça, je me rends compte, du coup, de l'importance d'apprendre à connaître quelqu'un. Mm-hmm. parce qu'en fait, ça, c'est ce genre d'information. J'ai besoin de savoir dans quel environnement tu as grandi. Parce que l'environnement dans lequel tu as grandi a construit ta personne. Soit tu essayes de t'éloigner de l'environnement dans lequel tu as grandi, parce que c'était quelque chose que tu as identifié comme étant beaucoup trop toxique, mm-hmm. et tu veux quelque chose d'autre pour toi. Mm-hmm. Ou soit tu essayes de maintenir l'environnement dans lequel tu as grandi. Mm-hmm. Parce qu'en fait, mon environnement était sécurisant, c'était bien, moi j'aime bien, enfin voilà. Et du coup, d'une certaine manière, tu vas essayer de maintenir cet environnement dans ta vie d'adulte. Et j'ai besoin de savoir quel était cet environnement-là. Et pour vraiment prendre conscience de comment ton environnement t'a modulé, il faut que j'apprenne à te connaître.
Oui, bien sûr.
Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais beaucoup plus. Mm-hmm. Pour être en mesure de bien choisir pour moi, je n'ai aucune combine. Ça va être bizarre de dire ça. Je n'ai aucune combine, comme on t'y a senti, de vraiment te dire... Mais en fait, là, j'apprends à te connaître, en fait.
Oui.
Là, t'es... En fait, je blague toujours avec mes amis, et je suis sûre que j'ai déjà fait cette blague avec toi, mais tu vois, quand tu prends un abonnement Netflix ou OCS, mm-hmm. ou Spotify, et tu as les 30 jours d'essai avant de payer. En fait, aujourd'hui, les gens,
ouais.
que je peux potentiellement choisir ont des jours d'essai. En fait, là, on se voit, on se fréquente, il n'y a vraiment pas de souci, mais en fait, t'es dans ta période d'essai, là, en fait. Et j'espère que je suis dans ma période d'essai aussi pour toi, parce qu'en fait, ça nous permet de vraiment choisir si, tout comme les applications, enfin les logiciels, mm-hmm. comme Netflix ou quoi, si c'est vraiment le forfait qui est mieux pour moi, en
exact,
fait.
Exact. mais ça revient, on l'a évoqué la dernière fois, à avoir un certain nombre de conversations. C'est dans ces conversations-là, en fait, que tu
oui.
apprends à connaître quelqu'un. Mm. Parce qu'elles peuvent être révélatrices de plein de choses.
Mm, mm, mm.
Et justement, tu as des conversations qui... En fait, tu as des conversations qui peuvent te permettre de comprendre un comportement.
Ouais, exact. Exact. Et faire preuve d'empathie,
voilà.
En fait. Parce que là, on parle beaucoup de rejet, tu sais, de ben, en fait, tu as passé ton forfait, enfin, ta période d'essai, et puis bye, tu vois.
Mais ça peut être quelque chose qui te prolonge.
Exactement, exactement. Mm. D'ailleurs, ben, j'en ai parlé dans la partie 1, comment la personne que je fréquente aujourd'hui, ben, lors d'une conversation difficile, justement, où j'ai expliqué qu'en fait, le comportement, c'est un des comportements que je peux potentiellement avoir qui est toxique, j'expliquais l'origine de ce comportement-là, et la personne que je fréquente à l'heure actuelle m'a dit, je comprends, totalement. Mm. Par contre, c'est pas moi qui suis à l'origine de ça. Et du coup, je n'ai pas à encaisser ce truc.
Okay.
Et tu as les ressources pour arrêter d'agir comme ça. Je le sais en te connaissant. Donc, ressaisis-toi. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on peut très facilement glisser dans la pente de « j'accepte tout
mm-hmm.
parce que je comprends
mm-hmm. ».
C'est pas parce que tu comprends quelque chose que tu dois accepter quelque mm-hmm. chose. C'est comme... c'est trop bizarre. En fait, je suis partagée entre... donner des métaphores simples pour que les gens comprennent. Et en même temps, ça dépersonnalise tellement les gens parce que je les associe à des objets ou à des forfaits Netflix.
Vas-y.
Balance la sauce. Mais c'est un peu comme quand tu achètes une voiture d'occasion. Tu sais que tu vas découvrir des petits problèmes.
Les vis cachés.
Ouais, tu sais. Enfin, mais les vis cachés peuvent ne pas être très gros,
mais tu les vois pas au départ.
Ouais, tu vois. Tu sais, quand tu achètes une voiture d'occasion, tu sais, quelqu'un a roulé avec avant, je peux découvrir quelques petits trucs qui vont pas, tu vois. Ça peut être une simple tache sur un siège, ou le fait qu'un siège soit déchiré, ou quelque part, tu vois. Je parle pas d'un problème technique qui est coûteux, tu vois. Ben, en fait, j'ai l'impression que je comprends qu'il y a eu un utilisateur dans cette voiture avant moi. Ce n'est pas pour autant que j'accepte le fait qu'on m'ait vendu, par exemple, une voiture qui avait un vrai vis caché. Tu comprends? Je comprends que t'avais besoin de te débarrasser de ta voiture. Je comprends que tu veux aussi rentabiliser l'achat de ta voiture. Mais on négocie le prix de la voiture parce qu'en fait, je n'accepte pas l'état dans lequel... Enfin, pour le rapport... En fait, c'est exactement ça. Et c'est pas je suis fâchée, je rejette ta proposition de voiture, quoi que ce soit. Et en fait, je pense que les gens... c'est un peu la même chose. En fait, je comprends ton passé, je comprends que t'as une histoire. J'étais pas là avant. Il y a certaines situations où en fait je connais la personne depuis des années, mais en fait on n'était pas encore prêt à construire quelque chose d'intime. Et du coup, oui, j'ai été là en périphérie dans ta vie ou quoi, donc je peux avoir été témoin de certaines choses, mais pas dans la profondeur. Ou parfois je ne te connais absolument pas, en fait ça fait 6 mois qu'on se connaît, et puis voilà. Je comprends qu'avant moi t'as eu une vie, mais c'est pas pour autant que j'accepte le fait que tu agiras de la même façon avec moi, tu vois. Et aujourd'hui, je sais que l'estime que j'ai de moi me permet d'avoir cette conversation. En fait, je sais que je mérite mieux que le comportement que tu as eu l'habitude d'avoir jusqu'à maintenant. J'ai suffisamment d'empathie, suffisamment d'amour dans mon cœur pour comprendre d'où ça vient.
Pour être patient.
Pour être patiente. Et, c'est pas mais, et... j'ai suffisamment d'amour propre pour ne pas être patiente trop longtemps.
Exact. Oh mon Dieu, oui. Mais alors, quand tu parlais, l'exemple que tu as pris par rapport à la voiture et au fait de négocier le prix, et vraiment, enfin, moi, si je vais faire un parallèle du coup pour revenir aux relations, c'est vraiment un investissement que tu fais en toi et du coup en la personne, en l'entité couple que vous allez avoir. Et du coup, effectivement, tu peux rencontrer quelqu'un en sachant que cette personne a un vécu, qu'elle a certainement des choses sur lesquelles elle doit travailler, être compréhensif par rapport à ce vécu-là et être patiente, comme tu dis, par rapport à toutes les problématiques que vous allez rencontrer du fait du vécu de la personne. Mais comme tu dis, il y a un certain nombre de choses où, à un moment, quand toi, tu te prends en compte aussi, parce que je pense que l'erreur qui est faite aussi au départ dans certaines relations, c'est qu'on a tendance à s'oublier, en fait.
Je vois ce que tu veux dire.
On est beaucoup, justement, on en a parlé un peu aussi la dernière fois, mais avec les yeux de l'amour, tu vois, tout beau et tout. Sauf que faut prendre conscience que si réellement c'est une relation dans laquelle tu t'investis et qui va durer, faut que tu retires ce filtre d'amour et que tu sois, encore une fois, ça revient, mais honnête avec toi-même. Est-ce que réellement le problème que la personne a, qui, je sais, c'est pas de sa faute, voilà, mais est-ce que réellement je vais... est-ce que je vais pouvoir subir les conséquences de ce problème-là encore longtemps, tu vois. Et donc, avoir cette maturité, cet amour propre pour savoir dire stop aussi, parce que bah, par moment, on a parlé de toxicité tout à l'heure, mais par moment, justement, bah, tu sais quand ça devient problématique pour toi, bah, d'essayer d'aider finalement quelqu'un aussi à perdre, parce que quelqu'un qui ne peut pas s'aider... t'as beau être présent, t'as beau être patient, t'as beau lui donner les pistes pour pouvoir céder, si la personne elle-même ne veut pas céder, mais au final, c'est toi que tu perds, en fait.
Ouais.
Donc, je pense que c'est important.
Ça, c'est sûr. Je suis surtout en train de me dire... En fait, je t'écoute et je me dis... J'ai l'impression qu'il y a très peu de personnes qui ne veulent pas céder eux-mêmes. Il y a très peu de personnes qui, consciemment, te disent « Non, non !» Je veux pas régler mon problème. très souvent, les gens ne sont même pas conscients qu'il y a un problème.
Mais c'est ça, le truc. Tiens.
Et ça, c'est pire. Ça, c'est pire que d'assumer, en fait, je ne veux pas régler un problème. Parce que du coup, tu es en position d'une personne... Enfin, tu as la position de la personne qui voit le problème, qui subit le problème. Et en face de toi, tu as quelqu'un qui te dit « Mais il n'y a pas de problème. » Et ça, je sais, parce que je travaille beaucoup sur ce genre de cas avec pas mal de clients et de clientes. Je leur dis « Mais qu'est-ce qui te fait rester ?» Est-ce que c'est le fait que tu es convaincu que le problème peut se régler? Ou est-ce que tu restes parce que tu as besoin que la personne reconnaisse qu'il y a un problème?
C'est pas pareil.
C'est vraiment pas pareil. Il faut que les auditeurs écoutent bien cette question. Est-ce que tu restes parce que tu es convaincu que le problème peut se régler? Ou est-ce que tu restes parce que tu as besoin que la personne reconnaisse qu'elle a un problème? Pourquoi je répète ça? C'est parce que en tant que sexothérapeute, 98% des personnes qui sont dans un schéma relationnel où il y a un problème, comme par exemple de l'alcoolisme, de la violence, une mauvaise gestion émotionnelle, de la jalousie, etc., et que il ou elle est le partenaire qui subit, il y a ce schéma d'auto-sabotage de « il faut que je souffre suffisamment pour que la personne voit à quel point je souffre, pour qu'elle voit « oh, mais en fait, il y a un problème ».
Ouais.
Et du coup, sans s'en rendre compte, c'est « ben en fait, je souffre tellement qu'à un moment, il ou elle verra qu'il y a un problème. » Ouais, c'est pas possible qu'il voit pas. En fait, il faut qu'il reconnaisse, il faut qu'elle reconnaisse qu'il, elle, a un problème.
Ouais.
Et ça passe par « je me sacrifie ». En fait, je me sacrifie pour que la personne voit qu'il y a un problème.
Ouais. C'est ce que je te disais quand des fois, tu t'oublies complètement.
Exact.
Parce que t'as cet espoir que...
Et devant moi, en cabinet, du coup, ça fait que les personnes qui sont dans ce schéma-là, paradoxalement, elles ont tellement ou ils ont tellement souffert qu'ils ne croient plus que le problème peut être réglé. Hein.
Okay.
Tu vois, c'est vraiment genre... Ah non, mais... Enfin, là, c'est trop gros, en fait. Hein. Il ou elle changera jamais. Hein. Mais pourquoi t'es là? En fait, est-ce que t'es là parce que tu soi-disant peux le sauver? Ou est-ce que t'es là parce que tu as besoin qu'il reconnaisse qu'il a un problème? Et si c'est ça, tu as un plus gros problème que le fait qu'il ait un problème.
Bien sûr.
Et ça, c'est hyper difficile à admettre. Et je le dis aujourd'hui, certaines personnes peuvent vraiment recevoir ça comme une grosse roche dans leur jardin aujourd'hui, mais je le dis de manière aussi émotive parce que j'ai été dans cette situation. J'ai été dans cette situation de « mais tu vois pas comment je pleure tous les soirs Tu vois pas qu'il y a un problème? Tu te rends pas compte de comment tu me parles Tu sens pas qu'il y a un problème Mais oui, la personne sait, la personne te voit pleurer. La personne voit bien que tu es malheureuse. La personne voit bien que tu as perdu ou tu as pris des kilos. La personne le voit. Tout le monde le voit. Donc, pourquoi tu es là?
Toi, pose-toi la question.
Donc, oui, il y a ce choix aussi qui est de... Est-ce que je choisis de sauver ou est-ce que je choisis de me sacrifier? Parce que c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose.
C'est pas pareil.
Et quels sont les choix inconscients que je fais? Parce que ça, c'est les pires. Les choix inconscients que je fais.
Et les conséquences?
Et les conséquences. Ça. Surtout quand il y a des enfants, hein, tu vois. Je sais que... Et je trouve super intéressant d'arriver sur ce sujet avec toi, parce que tu es quelqu'un qui ne veut pas d'enfants.
Alors,
attends, je sais ce que tu vas dire. Parce que, tu es quelqu'un qui, jusqu'à très récemment...
Il faut énoncer le fait que c'est exactement cette conversation qui nous a donné le sujet du podcast.
D'où, alors, je corrige ma phrase. Voilà. Tu es quelqu'un qui, jusqu'à récemment, ne voulait pas d'enfant. Voilà. Et là, vu les choix que tu as fait pour toi dans ta vie relationnelle, tu te rends compte que la personne que tu as choisie pour toi est quelqu'un qui te fait revoir tout ce sur quoi tu t'es basé, en fait.
Alors, pour... en fait, j'ai toujours dit, d'aussi loin que je m'en souvienne, que avoir des enfants, ce n'est absolument pas un objectif de vie. Ça a toujours été mon discours, toutes les personnes qui me connaissent le savent. C'est pareil pour le mariage, parce que je trouve que, de manière générale, aujourd'hui, les gens vont se marier ou avoir des enfants parce qu'ils doivent le faire, ou parce qu'ils se sentent obligés de le faire, par suite logique. Et du coup, j'avais conscientisé ce truc où j'étais persuadée que... voilà. Et le discours qui allait avec ça, c'était aussi beaucoup aujourd'hui, le monde dans lequel on vit. J'étais convaincue de mon truc, quoi. Et il s'avère qu'on a parlé du fait d'avoir des conversations qui peuvent être
inconfortables.
Donc, c'est une conversation que j'ai eue avec la personne en question. Je me suis déjà rendu compte que la conversation m'a rendue beaucoup moins inconfortable que ce que je pensais. Et ça m'a beaucoup troublée. Juste ça, en fait. Juste le fait d'avoir la conversation. Le fait d'avoir la conversation autour des enfants avec cette personne, ça n'a pas posé de problème. Donc, rien que ça, pour quelqu'un qui avait jusqu'à maintenant dit qu'elle ne veut pas d'enfants, en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bouleversée. À la suite de cette conversation, j'ai eu une introspection. Et c'est à la suite de cette introspection que j'en ai discuté avec toi. Et je te disais qu'en fait, je venais de me rendre compte que jusqu'à maintenant, je disais que je ne voulais pas d'enfants, mais je me suis demandé si en fait je ne voulais pas d'enfants avec les partenaires que j'avais jusqu'à maintenant.
Exactement.
Puisque je me suis aussi rappelé que c'est quelque chose que je répétais depuis toute petite, c'était si je veux des enfants, il faut que je puisse les assumer toute seule.
Ouais.
Donc cette phrase montre bien que la problématique n'a jamais été d'avoir des enfants.
Exactement.
Mais est-ce que les personnes avec lesquelles j'ai été... En fait, elles n'ont jamais challengé
cette pensée que tu avais.
Cette croyance, en fait, que j'avais.
Exact.
Donc voilà. D'où le fait, l'importance des choix du partenaire sur le reste de ta vie. Parce que si je n'avais pas, je pense... revu ça. Alors, ça ne veut pas dire aujourd'hui que j'aurai des enfants.
Tu auras des enfants, oui, ça c'est sûr.
Le fait de ne pas avoir d'enfants comme objectif de vie, c'est encore le cas. Ça n'a pas non plus révolutionné tout ça. Mais je peux m'approcher.
Je pense que c'est une petite déformation professionnelle, mais le choix des mots est hyper important. Encore la notion de choix, qu'il soit conscient ou inconscient. Et tu cherchais tes mots, je t'ai dit penser, et tu as choisi inconsciemment de parler de croyance. Tu as dit, mais en fait, la croyance, c'était même pas juste la pensée, c'était la croyance. La différence entre la pensée et la croyance, c'est que la pensée vient de l'intérieur, la croyance vient de l'extérieur. Tu crois quelque chose. On te fait croire quelque chose, ok? Et pendant que tu étais en train de me parler, avant même que tu choisisses le mot croyance, je me suis dit... Je me demande même si c'est culturel. Parce que énormément de femmes antillaises que je connais aujourd'hui ont grandi avec cette croyance qu'elles auront à assumer leur enfant toute seule. Tu vois? Et du coup, il y a cette notion de, en fait, oui, je veux des enfants et en fait, je me vois très bien les élever toute seule, en fait. En fait, je veux des enfants, j'ai pas envie d'avoir à les élever toute seule, mais je me prépare à les élever toute seule. Aujourd'hui, on le sait, sur les territoires des Antilles, 86% des foyers sont des foyers monoparentaux avec
une femme à la tête
du foyer, tu vois. Donc, en fait, il y a cette notion de, par des injonctions, par... de l'éducation indirecte, en fait, c'est juste, en fait, je vois que les femmes de ma vie se débrouillent toutes seules, eh bien, on me fait croire qu'en fait, j'aurais à assumer mes enfants tout seul. Ça vient pas nécessairement de moi à la base, en réalité. Et en fait, c'était tellement présent depuis le départ de ma vie que je crois que ça vient de moi. Je pense que ça vient de moi et en fait ça ne vient pas de moi, mais mon corps sait que ça vient pas de moi, et du coup ton cerveau qui connaît la définition des mots m'entend te dire la pensée, et en fait non, c'est bien la croyance qu'en fait en fait j'aurais assumé mes enfants toute seule ou quoi que ce soit, et là t'as quelqu'un qui vient briser tes croyances clairement limitantes ou pas d'ailleurs, parce qu'au final, d'une certaine manière, le fait de croire que tu auras assumé tes enfants toute seule t'oblige à trouver les ressources en toi pour pouvoir les assumer tout seul. Donc d'une certaine manière, ça peut être, j'ai pas envie de dire bénéfique, mais avec de grosses guillemets, pour t'inviter à te dépasser. Je trouve ça toujours beau quand quelqu'un fait l'espace en lui ou en elle pour qu'une autre personne vienne détruire un mur.
Mais c'était
et violent. C'est exactement ça. Oui, mais tu aurais pu te braquer et franchement dire, ben en fait, moi je t'ai dit que je veux pas d'enfant, point, en fait. Je vois pas pourquoi on a cette discussion, je vois pas, tu vois. Donc, t'aurais pu. Et mine de rien, même si là encore ça a été un choix inconscient, mais t'as fait l'espace. Et la personne aussi a contribué, parce que quand je t'écoutais, j'étais là aussi. C'est tellement beau aussi d'avoir quelqu'un qui sait faire l'espace. Parce que t'as dit, cette conversation m'a un peu prise par surprise, et au final, ça m'a pas dérangé de l'avoir.
Ouais.
Ben, en fait, la manière dont la personne emmène les choses, la manière dont la personne utilise un vocabulaire qui te parle, qui te rassure, qui te met en confiance, je sais qu'en fait, ce que je vais dire ne va pas être retenu contre moi, etc. En fait, vous deux, vous créez cet espace, vous co-créez cet espace pour que la conversation se passe bien, pour que les choses soient accueillies dans vos vérités communes, en fait, et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, je trouve ça beau. Et d'une certaine manière, ça peut te rassurer dans le choix, justement, que tu as fait pour toi par rapport à cette personne que tu fréquentes.
Sur, déjà, la façon d'amener, justement, le sujet. Je pense que c'est... Parce que c'est pas quelqu'un qui avait cette connaissance, comme tu l'as dit, je sais que tu ne veux pas avoir d'enfant. Donc, c'est vraiment la façon d'amener le sujet qui a été vraiment très, je dirais, bienveillant, qui me laissait aussi l'espace de pouvoir dire en fait j'en veux pas, parce que c'est pour ça en fait que la conversation a eu la tournure que ça a eu, c'est parce que bah en fait je ne me suis pas sentie oppressée
ou jugée
ou même en fait je me suis pas sentie dans la façon la question dont le sujet a été amené, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu cette orientation de réponse. Voilà,
pour clôturer cet échange autour du choix, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites partager, que tu souhaites déposer, que tu souhaites n'importe quoi à nos auditeurs?
Bah écoute, je dirais que on l'a vu pendant les deux épisodes, finalement c'est ne pas avoir peur de l'inconfort. On en a beaucoup parlé, puisque nos deux expériences peut le relater, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est vraiment dans ces situations qu'on va chercher au fond de soi et en fait qu'on apprend réellement à se connaître. Donc, n'ayons pas peur de l'inconfort.
Voilà, ok. J'ajouterais à ça que... Et je pense que c'est l'accent que je mets dans absolument toute ma communication, que ce soit au travers du PPQ, que ce soit les publications sur les réseaux sociaux ou n'importe quoi, mais en fait j'aimerais que tout le monde ait le courage d'être qui ils sont, en fait. Et en fait le problème, et on en parlait aussi hors antenne, c'est que parfois le jour où tu as arrêté d'être toi-même est tellement loin
que tu ne te rappelles.
Qu'en fait, tu sais même plus qui tu es. Parce que tu es devenu ce que tu dois être pour atteindre un objectif.
Qui n'est parfois même pas le tien.
Mais qui n'est même pas le tien. En fait, c'est tes parents t'ont dit qu'il faut que du coup, t'es là en train de t'évertuer à... Et du coup, ça fait que t'es tellement devenu ce que tu penses que tu dois être que tu ne sais plus qui tu es. Et en fait, je pense qu'absolument tout ce que je le fais pour que les gens... qui aient cette petite lumière, un peu comme quand tu craques une allumette dans le territoire de ce que t'as oublié de toi, que quelque chose se craque et que tu... Il y a cette personne en fait qui aime danser, qui danse plus en fait depuis 15 ans. Il y a cette personne qui adore regarder des dessins animés, qui en regarde plus parce qu'en fait mon ex d'il y a 20 ans m'a dit que j'étais une gamine parce que je regarde des dessins animés. Enfin, ça peut être tout con, Mais du coup, aucun choix ne sera épanouissant tant qu'on ne se reconnecte pas à la personne qu'on est. Parce qu'en fait, les choix que tu vas faire pour la personne que tu dois être, soi-disant, auront toujours ce goût de « il manque quelque chose ».
Ouais.
Et du coup, pour pouvoir faire des choix qui vraiment remplissent ton cœur et te procurent une forme de paix, en fait, tu dois chercher qui tu es. Et tu dois te dire « oh putain, en fait, cette personne a besoin de ça, a besoin de ci, a besoin de ça, veut ci, veut ci, veut ça ». Et sur les bases de cette personne, je vais faire mes choix. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des personnes qui ont perdu de vue qui ils sont depuis longtemps, qui ont construit toute une carrière sur ce qu'ils doivent être. Mmh. Et après, à 40 ans, font un burn-out de malade. Et vont te dire, mais putain, en fait, j'ai jamais aimé la finance. Mais qu'est-ce qui m'a appris d'être dans ça? Moi, je me rappelle que quand j'étais gosse, je voulais être peintre. Ben voilà, je vais tout foutre en l'air. Je vais être peintre maintenant, etc. Mmh. Et en fait, c'est à 45 ans... que tu commences à être à ta carrière de peintre, sauf que t'as foutu en l'air 25 ans de ta vie, tu vois, genre, pas truc. Ou en fait, je me réveille un matin et je regarde ma femme ou mon mari et je suis là, mais what?
Pourquoi je suis avec elle?
Mais moi, là-bas, j'aimais les rousses. La meuf, elle est blonde. Elle me casse le cul. Tu vois, en fait, t'es là et tu te dis, mais à quel moment je me suis retrouvée avec ça, en fait? Enfin, comment je me suis retrouvée là? Et en fait, c'est parce que, ben... t'as complètement perdu de vue.
Mais alors, on est sur la fin du podcast, mais t'as parlé de paix intérieure. Combien de personnes ne savent pas ce que c'est?
Combien de personnes ne savent même pas à quoi ça ressemble?
Ouais.
Ne savent même pas quel goût ça a, quelle couleur ça a, quelle texture ça a. En fait, je sais même pas c'est quoi. C'est utopique.
Ouais.
Tu vois ça que dans les films et encore.
On en
y a
parle
tout le monde.
Beaucoup, voilà, parce qu'il y a une notion de développement personnel, mais...
Est-ce que tu penses que tu es en paix aujourd'hui?
Je suis beaucoup plus en paix avec moi-même aujourd'hui que je ne l'étais, ne serait-ce que...
Est-ce que tu penses que tu n'as jamais été autant en paix que ça, avant? Est-ce que c'est le « the most peaceful you've ever been »
Non.
Oh?
Non, je...
Vraiment?
Non.
Ah.
Non, parce que j'ai déjà été plus en paix à d'autres moments,
par exemple.
Voilà.
J'associe la paix avec le fait que, qu'importe les perturbations, t'es OK. T'es OK avec le fait que ça vienne être perturbé. Parce que je pense que tu n'es pas en paix quand tu as peur que quelque chose vienne perturber ce que tu vis.
Mais
tu es là,
c'est pour ça que
tu
te dis que je ne suis pas...
Ah, voilà.
Mais il y a encore une petite... mais c'est mon fonctionnement. Et en fait, je sais que je dois me déprogrammer là-dessus.
De ça, OK.
Voilà. Donc, moi, je sais ce travail-là. C'est de ce travail-là que je parle. Je sais que j'ai ce travail-là à faire. C'est que je dois lâcher mon... On a parlé de schéma. Mm-hmm. Je dois lâcher ce... Voilà, donc
Ouais, moi c'est ça, c'est en fait je sais que là je me dis si quelque chose doit venir perturber ce que je vis actuellement, mais dans tous les sens, hein, professionnel, personnel, familial, amoureux ou quoi, ben en fait ça me dérangerait pas.
OK.
Et en fait ça me dérangerait pas que ce soit positif, que ce soit négatif. Parce que perturber, ça peut être très positif.
Oui, bien sûr.
Tu vois?
Bien sûr.
Et en fait, là, je suis en train de me dire, ben en fait, si quelque chose venait positivement perturber, ce serait génial. Et si quelque chose venait négativement perturber, je suis dans cette phase de masochisme, de développement personnel, tu sais? De... comment... Enfin, que sera la leçon de ce...
Ouais.
C'est qui fait que ça me rentrait dans pète.
Moi, je suis dans cette phase un peu fatiguée. Tu vois, donc, pas tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que ça va venir, il n'y a pas de problème. Mais là, tout de suite, non.
Et écoute, Rachel, merci d'avoir été présente sur les conversations sur l'oreiller. Et puis, pour tous les auditeurs qui sont avec nous maintenant, dans votre voiture, sur votre lit, dans votre salon, n'importe quand. De cet épisode, j'espère vraiment que vous en tirez le fait de toujours faire les meilleurs choix pour vous. On se retrouve très prochainement dans un autre épisode.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Conversations sur l'oreiller. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous en avons pris à l'enregistrer. Si vous avez aimé ce podcast, très précisément, laissez-nous un commentaire sur iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast, bref, qu'importe la plateforme sur laquelle vous venez d'écouter cet épisode, partagez-nous vos ressentis, Vos commentaires, vos feedbacks, on se fera vraiment un plaisir de vous lire. Partagez aussi cet épisode à vos amis, à votre famille ou à vos followers. En faisant ça ensemble, en communauté, nous pouvons avoir un impact sur l'abolition des tabous autour de la sexualité et ainsi être plus épanouis et libres. Et sincèrement, qui n'a pas envie d'être épanoui et libre dans sa sexualité? Si vous souhaitez plus de contenu sur le développement personnel et la sexualité justement, retrouvez-moi sur Instagram à @melaniejfree, MLANIEJFR2E. Vous pouvez également me retrouver sur mon site internet www.melanie-jacobin.com. À très vite.